Radio France Internationale, il est 7h30 à Tel Aviv, 6h30 à Paris. Bonjour Xavier Besson.
Bonjour Jeanne, bonjour à tous.
Et à la une de votre journal, une caravane de solidarité avec Gaza bloquée en Libye.
Plus d'une centaine de véhicules partis la semaine dernière de Tunis pour ce convoi qui entend casser le blocus humanitaire de la bande de Gaza imposé par Israël. Mais avant le territoire palestinien, il y a la Libye et l'Égypte et des autorités locales. Pas forcément de bonne volonté, nous expliquera Ouda Ibrahim. Dans ce journal également, Médecins sans frontières qui s'alarment d'une augmentation des violences sexuelles dans l'est de la République démocratique du Congo. Tandis qu'à Goma, hier, la chef de la mission de l'ONU a rencontré les dirigeants de l'AFC M23 et a estimé que le groupe armé souhaitait une solution pacifique au conflit. L'Afrique du Sud, où l'on accueille avec réserve l'annonce de la Chine, Pékin qui compte lever les droits de douane pour les produits de quasiment tous les pays africains. Dans une dizaine de minutes, le journal des sports avec Olivier Pron, à quelques heures du début de la Coupe du Monde des clubs, nouvelle formule. Mais avant cela, un mot de la situation au Proche et Moyen-Orient. Et ces alertes anti-aériennes qui ont retenti toute la nuit en Israël. La riposte de l'Iran se poursuit à l'heure où l'on parle. Des dizaines de missiles ont été lancés, frappes qui ont touché Jérusalem et Tel Aviv. L'armée israélienne de son côté continue ses bombardements débutés hier matin. Ils ont frappé l'un des aéroports de la capitale, Téhéran, ainsi que la grande ville d'Ispahan. Des frappes israéliennes qui ont fait 78 morts et plus de 320 blessés, d'après les autorités iraniennes. Et en Israël, une femme est décédée et 34 personnes ont été blessées, d'après les services de secours locaux. Le patron de l'ONU appelle à la désescalade immédiate. Et parmi les nombreuses autres réactions internationales, hier matin, l'Union africaine a exhorté toutes les parties au conflit à la retenue, estimant que les frappes israéliennes sur des sites nucléaires et militaires en Iran constituaient une grave menace pour la paix et la sécurité internationale. Réaction de l'UA avant le déclenchement de la réponse iranienne. Sur le continent, c'est aussi un autre volet de la politique israélienne qui mobilise la société civile, en l'occurrence la guerre à Gaza et le blocus humanitaire imposé au territoire palestinien, que plusieurs caravanes espèrent pouvoir briser. En Libye, par exemple, où sont actuellement stationnés une dizaine d'autocars et une centaine de voitures parties de Tunis la semaine dernière. Mercredi, cette caravane est arrivée à Tripoli, mais désormais elle est bloquée à Sirte en attendant le feu vert des autorités de l'Est libyen, puis de l'Égypte pour continuer sa route, nous raconte Ouda Ibrahim.
Nous ne reviendrons pas en arrière, assure Wael Nawar sur sa page Facebook. Ce Tunisien est l'un des coordinateurs de la caravane Soumoud, dont l'objectif est de briser le siège de Gaza imposé par Israël. Mourad Benjeddo, autre coordinateur travaillant depuis Tunis, affiche la même détermination malgré la réticence égyptienne.
Le communiqué du ministère égyptien des Affaires étrangères ne concerne pas Soumoud, la caravane de la résistance pour briser le siège de Gaza. Nous sommes tous de nationalité arabe et nous ne venons pas d'ailleurs. Nous ne sommes donc pas concernés par les mesures annoncées. La coordination de travail pour la Palestine à Tunis a contacté l'ambassadeur égyptien pour finir toutes les formalités avant le départ de la caravane et nous avons attendu une semaine pour obtenir les visas et les autorisations sécuritaires pour l'Égypte. Nous sommes conscients qu'on est nombreux. Nous avons donc décidé d'avancer en attendant d'obtenir plus tard les autorisations nécessaires.
Le Caire, qui souhaite la levée de siège de Gaza pour permettre l'accès humanitaire, souligne cependant la nécessité de respecter les procédures pour les délégations étrangères voulant exprimer leur soutien aux droits de Palestiniens et demande une autorisation préalable qu'elle n'accorde pas pour le moment.
RFI. La Chine prend donc le contre-pied des États-Unis, alors que le président américain Donald Trump se sert des droits de douane comme instrument de pression et envisage de taxer certains produits venant du continent à hauteur de 50%. La Chine, elle, annonce son intention de réduire à zéro les droits de douane pour la plupart des pays du continent. Pour tous, en fait, à l'exception d'Eswatini, le seul pays africain qui maintient aujourd'hui des relations diplomatiques avec Taïwan. Et parmi les pays les plus concernés par l'annonce réponse de Pékin, il y a l'Afrique du Sud. Le commerce entre les deux pays, Afrique du Sud et Chine, a explosé dans les années 2000. Aujourd'hui, certes, Pretoria exporte surtout des matières premières, mais l'Afrique du Sud vise le marché chinois pour ses produits finis. Et pour le moment, l'heure est encore à la prudence pour les opérateurs économiques sud-africains. Correspondance de Valentin Hugues.
Après cette annonce de Pékin, certains acteurs économiques sud-africains comme Criben Reddy, spécialiste de l'économie automobile, restent très prudents.
Sur les matières premières pour les véhicules, on peut imaginer un développement des exportations, mais en règle générale, on ne sait pas du tout ce que cela va donner. Est-ce que la demande des consommateurs chinois pour les produits sud-africains va augmenter, par exemple ? Selon moi, on devrait plutôt trouver une synergie entre pays africains, parce que l'Afrique, dans son ensemble, pourrait rivaliser avec n'importe quel autre continent.
C'est aussi l'avis de Icarabele Legae, qui accompagne les exportateurs de fruits et légumes. Pour lui, cette décision est surtout dans l'intérêt de la Chine.
Ça fait partie de la guerre commerciale avec les États-Unis. Les États-Unis laissent un espace, la Chine le comble. Mais pour nous, ça ne va pas changer grand-chose, parce qu'on est plutôt dans une position d'importateur de produits chinois que l'inverse. En Afrique du Sud, on a la chance d'exporter beaucoup de fruits vers la Chine, notamment des pommes, parce qu'elles sont très rares là-bas. Mais je crois que cette décision, c'est surtout pour négocier encore plus et nous dire « les droits de douane sont à zéro, on peut donc envoyer encore plus de nos produits chez vous ».
La Chine n'a pas encore précisé l'entrée en vigueur de cette nouvelle mesure. Valentin Hugues, Johannesburg, RFI.
À plusieurs heures d'échanges et des déclarations, à minima hier à Goma, à la grande ville de l'Est de la République démocratique du Congo, où la chef de la MONUSCO, la force de l'ONU dans le pays, a rencontré Corneille Nangaa et Bertrand Bisimwa. Elle est deux chefs de file de l'AFC-M23, ce groupe armé soutenu par le Rwanda, qui occupe la ville et de larges pans des provinces du Nord et du Sud Kivu depuis le début de l'année. Au-delà de la portée symbolique d'une telle rencontre, la chef de la mission onusienne a déclaré que la MONUSCO soutenait toutes les initiatives susceptibles de favoriser une désescalade des tensions et elle a assuré que l'AFC-M23 souhaitait une solution pacifique au conflit. L'Est congolais et en particulier les zones de conflit où l'ONG Médecins sans frontières décrit une situation particulièrement inquiétante en matière de violences sexuelles. Depuis le début de l'année, MSF constate une augmentation des violences basées sur le genre, une dégradation de la situation, alors que dans le même temps, les financements de l'action humanitaire sont de plus en plus compliqués. À Kinshasa, Paulina Zidi.
Pour MSF, le niveau de violence sexuelle dans l'Est, principalement au Nord Kivu, est sans précédent. Si les femmes sont les plus affectées, le nombre de victimes parmi les enfants est en augmentation. 13% des cas de violence sexuelle concernent les mineurs. L'organisation demande une mobilisation supplémentaire alors que les financements sont en baisse après des coupes budgétaires du côté de l'aide américaine. Emmanuel Lampart est le représentant pays de MSF en RDC.
En plus de ces violences sur la santé physique et mentale, c'est les conséquences sociales qui sont dévastatrices. Rejet familial et social, divorce, stigmatisation, pensées suicidaires et immenses difficultés pour ces survivants et survivantes de continuer à vivre dans les lieux où elles ont été agressées. D'autant plus, à ce moment de l'année et cette année particulière avec les coupes budgétaires, il est clair que l'accès et l'offre de soins est devenu de plus en plus difficile.
MSF évoque aussi des chiffres sous-estimés, tant l'accès aux soins demeure complexe dans cette région du pays. Paulina Zidi, Kinshasa, RFI.
La RDC est également théâtre d'une nouvelle tragédie fluviale dans l'ouest du pays. Cette fois, plusieurs embarcations ont chaviré mercredi en fin de journée sur le lac Tumba dans la province de l'Équateur. D'après les autorités locales, il y a au moins 40 morts, chiffre provisoire, et plusieurs dizaines de disparus. Des opérations de secours étaient toujours en cours hier. Assassinat et complicité d'assassinat, ce sont les motifs pour lesquels Ousmane Dilo a porté plainte devant la justice française, plainte contre X. Suite à la mort de son frère, l'opposant tchadien Yahya Dilo, tué en février 2024 lors de l'assaut du siège de son parti, le Parti Socialiste Sans Frontières, lors d'une opération de l'armée. Et son avocat dénonce aujourd'hui l'inertie des autorités tchadiennes, le fait par exemple qu'il n'y ait pas eu d'autopsie ni de véritable enquête. Dans l'actualité ce matin également, ces affrontements hier dans le nord du Mali, où un convoi de l'armée et de ses alliés russes a été pris pour cible par les rebelles indépendantistes du FLA, Front de Libération de l'Azawad, tôt hier matin dans la région de Kidal, dans le nord du Mali. Le FLA qui revendique revendique, je cite, une grande victoire. Là où l'armée malienne assure, elle, avoir pris le dessus sur les assaillants, après avoir, dans un premier temps, démenti toute attaque. Comment fonctionne African Initiative ? L'un des maillons de l'influence extérieure russe, notamment sur le continent africain, c'est l'objet d'un rapport publié cette semaine par Viginum, le service français de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères, qui est un service rattaché au ministère de la Défense. Que dit-il ? On voit cela avec François Mazé.
Né en septembre 2023, African Initiative est d'abord une agence de presse publiant des articles en russe, en français, en anglais et en arabe. Le rapport décrit son rédacteur en chef, Artyom Koureyev, comme suspecté d'être en lien avec les services de renseignement russes. Le document montre qu'African Initiative a été parmi les premiers à promouvoir le lancement du groupe paramilitaire Africa Corps. L'unité est présentée comme une opportunité pour le continent. Un récit pro-russe publié par le site qui relaie aussi des campagnes de désinformation comme au Burkina Faso, où les Occidentaux sont accusés de propager l'épidémie de dengue. L'organisation est présente au niveau local à travers des ONG et des associations pour promouvoir la Russie comme partenaire et recruter des influenceurs, des journalistes et des activistes. C'est le cas en particulier à Ouagadougou, mais aussi au Mali, où l'association Perspectives Sahéliennes a annoncé en 2024 la création d'une école de journalisme. Le rapport montre aussi comment les contenus numériques russes sont mis en avant sur le net par la manipulation des algorithmes des moteurs de recherche à l'aide de faux blogs et de faux comptes Twitter. Il nuance tout de même la force de frappe d'African Initiative en pointant les audiences limitées de ce site.
François Mazé, il est 6h41 ici à Paris.
Afrique Matin sur RFI.
Afrique Matin, à suivre, reportage sur l'île Plantin, sur la côte de la Sierra Leone. Une île autrefois peuplée de 5000 habitants, mais qui est aujourd'hui menacée de disparition, nous racontera notre envoyé spécial. On évoquera aussi la mémoire et l'œuvre de l'écrivain congolais Sonny Labou-Tansi, mort il y a 30 ans, jour pour jour. Aujourd'hui, on en parlera avec notre invité, professeur de littérature française et francophone. Et puis la chronique des médias, comme tous les samedis. Rendez-vous tout à l'heure avec Amaury de Rochegonde. Mais tout de suite, ce sont les sports avec Olivier Pron. Bonjour Olivier.
Bonjour Xavier, bonjour à tous.
Et on commence par du football avec cette nouvelle compétition, le Mondial des clubs qui débute ce soir aux États-Unis.
32 équipes venues des 6 confédérations continentales de la FIFA, 8 poules de 4, 11 villes, 12 stades à travers tout le pays, pas sûr qu'ils soient pleins, c'est plutôt mal parti pour. La compétition ne suscite aucun engouement là où elle est organisée. Ce Mondial des clubs, souvent décrié pour les cadences de matchs imposées aux joueurs en fin de saison, est le souhait de Gianni Infantino, tout puissant patron d'une FIFA avide d'argent. Les Saoudiens ont par exemple investi 1 milliard d'euros dedans. Il devrait au moins servir ce Mondial des clubs de répétition générale à un an du seul Mondial qui vaille la peine, au fond, celui des sélections. Coup d'envoi ce soir avec la première des 4 équipes africaines en lice, et pas des moindres, la plus prestigieuse, le Al Ahly du Caire, 12 fois champion d'Afrique, opposé à 0 heure, temps universel, l'Inter Miami. À l'Inter Miami de Lionel Messi, vous allez vous lever.
Moi, on n'a pas le choix, puisqu'il faut bien venir faire la matinale sur RFI.
Ah oui, pas pour regarder, bien sûr.
Du football encore, Olivier, au Bénin cette fois, avec un titre national qui se joue aujourd'hui, samedi.
Ouais, finale inédite du championnat au stade de Grand Popo, Djadjé FC, leader du classement final de la poule A, affronte Coton FC, triple tenant du titre et meilleure équipe de la poule B. C'est logique, jusqu'ici, le club de Djakotomé, lui, rêve d'un premier sacre national, donc le Djadjé FC, d'une qualification inédite pour la prochaine Ligue des Champions. Et son entraîneur, l'Ivoirien Yaya Koné, est persuadé que c'est la bonne année. Propos recueillis par Théophile Hazard.
Cette finale, nous l'abordons avec beaucoup de calme, beaucoup de sérénité. Cette saison, nous pensons que Djadjé a beaucoup progressé dans son jeu, on a beaucoup plus appliqué. Les jeunes gens sont hyper motivés de pouvoir décrocher ce titre de champion du Bénin. La plupart de mes joueurs n'ont jamais goûté à ce sacre de champion. Pour ces joueurs, il est important pour leur carrière, pour l'avenir de tout ce qu'ils sont en train de faire, voilà, de pouvoir décrocher ce titre. Loin de nous, toute pression, on va essayer de se donner les moyens pour que ce rêve serait puisse être réalisé. Ils sont prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes pour faire plaisir au peuple, parce que c'est une première dans la vie du club. Ils sont très motivés.
C'est à vous, cyclisme.
Cyclisme, on file au Cameroun.
Bah oui, dites Allez. Donc, si vous voulez bien. Jour de repos hier à Kribi pour le peloton et jour de réflexion pour l'équipe camerounaise devant au général avec Boris Michel Tiencheux, 12 secondes devant l'Algérien Mansouri, 26 sur l'Allemand Schmitz. Comment faire pour que cela ne change pas à la veille de l'arrivée finale? Le capitaine de l'équipe camerounaise Clovis Kamzong Abosolo sait que sa formation a encore beaucoup d'efforts à faire pour protéger son leader, notamment aujourd'hui entre Puma et Yaoundé. 9e étape, 157 km. Une étape importante, a-t-il confié à notre correspondant Joël Wadem.
Ça sera encore peut-être la deuxième étape clé de ce Tour du Cameroun. La stratégie, c'est de protéger Boris Michel, qui est le mieux classé. On est à son service. On essaye d'envoyer les gens qui sont encore mieux classés dans les équipes camerounaises pour qu'ils puissent aller dans les échappées pour essayer de casser un peu le rythme des autres adversaires qui bousculent un peu le maillot jaune. Boris, lui, a deux coureurs à contrôler dans le peloton, l'Algérien et l'Allemand. L'Algérien ne va pas accepter lâcher sa deuxième place et l'Allemand aussi. C'est à nous autres qui sont un peu loin, qui faites le boulot pour que lui puisse faire l'arrivée avec eux. Parce que quand il vient faire l'arrivée avec eux, il reste dans le même temps. C'est notre objectif.
Et c'est le suspense du jour sur ce Tour du Cameroun. Clovis Kamzong Abosolo.
Merci Olivier Pron, c'était le journal des sports.
RFI, toute l'actualité.
Xavier Besson.
Et l'actualité internationale de ce samedi 14 juin, ce sont ces dizaines de projectiles iraniens tirés sur Israël depuis hier soir. Ce matin, la télévision d'État à Téhéran rapporte de nouvelles frappes, des frappes en riposte aux attaques aériennes israéliennes. La nuit précédente, elles ont visé de nombreux sites nucléaires et militaires dans le pays. Elles ont aussi visé des centres des gardiens de la Révolution. Plusieurs hauts responsables de la puissante organisation paramilitaire iranienne ont été tués. Des frappes israéliennes qui ont fait 78 morts et plus de 320 blessés d'après Téhéran, alors qu'en Israël, une femme est décédée et 34 personnes ont été blessées d'après les services de secours locaux. RFI sera en édition spéciale dès 5h, temps universel et en direct sur l'application RFI et sur notre site rfi.fr. Et on continue maintenant de vous parler de l'île Plantin, cette petite île en face de la ville de Shengue en Sierra Leone, l'un des pays au monde les plus exposés à l'érosion côtière. On vous en parle alors que le sommet sur les océans vient de s'achever à Nice en France et alors qu'il est estimé qu'en Sierra Leone, 2 millions de personnes risquent aujourd'hui de perdre leur habitation et leurs moyens de subsistance. De nombreuses familles ont par exemple déjà dû quitter l'île Plantin, une île qui comptait autrefois 5000 habitants, mais qui s'est dépeuplé face à la montée rapide du niveau de la mer. Les plus pauvres n'ont de toute façon nulle part où aller. Reportage de Lisa Fabian.
L'histoire de l'île Plantin semble sur le point d'être effacée. Une partie des vestiges de cet ancien comptoir commercial portugais a déjà été engloutie par l'océan.
Je dirais qu'à peu près deux tiers de l'île ont disparu. Dans les années 70, les gens cultivaient la terre ici, mais ces champs n'existent plus. À l'époque, ils pouvaient aussi chasser des gros rongeurs, mais ces animaux, eux aussi, ont disparu.
Charles Barley est officier de la marine sierra-léonaise. Il vit à Shengue, la bourgade qui fait face à l'île de Plantin sur la côte.
Je dirais que presque 200 maisons ont disparu dans la mer. Il y avait trois mosquées ici, mais il n'en reste plus qu'une. La FAO avait fait construire des bandas pour sécher le poisson, et ça aussi c'est parti.
Difficile de dire combien d'habitants vivent encore ici. À la pointe de l'île Plantin, une fine langue de sable permet de rejoindre les grandes huttes dans lesquelles le poisson est fumé. Afsatou dort dans l'un de ces bandas depuis qu'elle a perdu sa maison.
Il était minuit, toute la famille dormait, 15 personnes en tout. Quand une grosse vague est entrée d'un coup dans notre maison et a tout emporté. Nous aimerions partir d'ici car la terre est rétrécie et nous avons peur. Si j'avais de l'argent, je le ferais. Mais je n'ai aucune économie, sinon j'aimerais m'installer à Tombo, le gros port de pêche sur le continent.
Malgré le déclin de l'île, la plupart des jeunes continuent à devenir pêcheurs comme leur père, faute d'alternative. C'est le cas de Mohamed Dangoa.
J'ai étudié jusqu'au lycée, mais maintenant je vais en mer. Pourtant il y a moins de poissons, car certains pêcheurs ont raclé les fonds avec leurs filets jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Alors nous sommes obligés d'aller très loin pour trouver du poisson. Certains de mes amis, qu'ils pouvaient, sont partis pour essayer de trouver un meilleur travail ailleurs dans le pays. Parce qu'ici, il n'y a rien.
Et certains effets du changement climatique ne sont pas visibles à l'œil nu, rappelle Henry David Bayot, qui travaille pour l'Agence de protection de l'environnement.
Avec l'érosion, l'eau salée s'est infiltrée et s'est mélangée à l'eau des nappes phréatiques. Donc, même trouver de l'eau potable sur l'île est devenu difficile. Ce qui a des implications sur la santé des habitants. On observe aussi des changements dans les courants marins, ce qui a des conséquences sur la pêche. Et puis le plancton, par exemple, ne survit pas à la hausse de la température de l'eau.
Un projet de restauration des mangroves est notamment à l'étude pour tenter de sauver ce qui reste de l'île Plantin avant que l'océan ne l'avale entièrement. Lisa Fabian, de retour de Freetown, RFI.
Et les deux reportages de Lisa Fabian sur cette île Plantin en Sierra Leone sont à retrouver sur RFI.fr. RFI, 5h50 à Brazzaville et à Kinshasa, aujourd'hui, samedi 14 juin. Cela fait 30 ans, tout juste, que nous a quitté l'écrivain, poète et dramaturge congolais Sonny Labutansi, un écrivain dont l'œuvre satirique est engagée à dénoncer la corruption et la dictature, tout en célébrant la vitalité humaine et l'espoir. Qui était-il? Qu'a-t-il écrit? On en parle ce matin avec notre invité Xavier Garnier, professeur de littérature française et francophone à l'université Sorbonne Nouvelle. Il répond aux questions de Laurent Corot.
Bonjour Xavier Garnier.
Bonjour.
Qu'est-ce qui, dans le travail de Sonny Labutansi, a fait de lui l'un des grands auteurs de la littérature africaine du XXe siècle?
Il fait partie de cette génération des écrivains africains qui sont arrivés sur la scène littéraire dans les années 70 et qui ont rompu avec... un pli qui avait été pris depuis l'époque coloniale, notamment sous l'égide de personnes du mouvement de la négritude, de grands écrivains comme Senghor, qui avaient comme souci de présenter l'Afrique à l'Europe. Sonny Labutansi, c'était pas son problème. Son problème, c'était de crier l'Afrique, de dire l'Afrique de là où il était. Cette littérature qui se réclame d'une expérience vécue, ça a été une forme de rupture et c'est ça qui donne sa puissance à ses textes.
Il a une langue aussi très forte, très violente presque.
Voilà, il était d'une famille absolument pas aisée et donc il a connu des grandes misères économiques, mais aussi des violences politiques. Ça a forgé un style. Il dit de l'art que c'est un exercice radical de lucidité. Il cherche vraiment, par son écriture, à être le plus fidèle possible à l'expérience qui est la sienne.
Et quels ont été justement ses combats? Qu'est-ce qu'il a cherché à dénoncer dans son écriture?
Il est très connu pour son premier roman qui a été publié en France, qui s'appelle La vie et demie, qu'on a à juste titre d'ailleurs présenté comme un roman qui dit les dictatures postcoloniales, donc qui dit la violence politique. Donc ça, c'est un versant important de son œuvre. Le roman auquel il tenait le plus d'ailleurs, qui n'avait pas été publié tel quel, mais qui avait comme titre dans le manuscrit « Machin la hernie », c'est un roman d'une puissance extraordinaire, a été reçu en Europe comme une dénonciation de la dictature. Et ça l'a un peu agacé, ça l'a même beaucoup agacé en fait, en disant « mais non, c'est pas ça que je fais. Moi, ce que je veux faire, c'est épouser l'expérience du pouvoir dictatorial et de toute la violence qui va avec. »
Ce qui est frappant aussi dans l'œuvre de Sonny Labutansi, c'est qu'il a des engagements contre la surexploitation minière aussi, qui sont finalement très, très contemporains, très actuels.
Oui, absolument. Ça, c'est explicite dans son théâtre. Il y a une pièce qui s'appelle Le Trou, qui parle de la prospection pétrolière, à l'époque de Sassou Nguesso d'ailleurs, déjà au moment où le jeune Sassou Nguesso a ouvert le pays à Elf. Et à la prospection pétrolière, il y a aussi la déforestation qui est très présente dans une pièce qui s'appelle Monologue d'or et d'argent, qui est une de ses dernières pièces, où il est question d'un arbre plurimillénaire que, alors, des Américains, alors, en l'occurrence, les Américasseurs, veulent déterrer et veulent emmener dans un parc naturel aux États-Unis, dans une région protégée, sous prétexte qu'en Afrique, il va dépérir. Et cet arbre est protégé par un vieillard et un enfant dans un village qui a été complètement vidé de sa population par un exode rural.
Quels sont ses textes les plus connus? Que disent-ils?
C'est le premier roman, donc La vie et demie, hein, qui raconte cette dynastie de dictature accueillie comme une sorte d'événement, de révolution stylistique. Après, son théâtre a été extrêmement joué. Il avait une troupe de théâtre à lui qui répétait et qui travaillait à Brazzaville, mais qui a beaucoup tourné à travers le monde, notamment au Festival de Limoges. Sa poésie de son vivant a été publiée de façon très, très éparse, alors que sa poésie était immense. Et donc, tout a été rassemblé pour les 20 ans de son décès en 2015. Un travail exceptionnel, parce qu'on voit vraiment les poèmes évoluer. Les poèmes, il les reprenait d'année en année. Et on voit les poèmes évoluer dans cette poésie complète.
Vous venez de nous parler de théâtre, de poésie, de roman. Est-ce que l'un des trois genres domine chez Sonny Labutanti?
C'est une question qu'on lui a souvent posée et à laquelle il répondait systématiquement par le fait que pour lui, il voyait pas la différence. Donc, il avait ce rapport à l'écriture et ses personnages très vivants, ses mots, ses formules qui circulent quelquefois du roman au théâtre, du théâtre à la poésie et qu'on voit bouger derrière. Donc, ces catégories lui étaient assez étrangères. Il a un très beau poème qui s'appelle « L'acte de respirer ». Et d'une certaine façon, l'acte de respirer, c'est la création.
Dans l'œuvre de Sonny Labutanti, il y a la partie émergée de l'iceberg, ce qui a été publié, qu'on connaît, mais il y a toute une partie inconnue du travail de Sonny Labutanti qui est extrêmement importante, qui sont des textes donnés de la main, à des relations, à des connaissances, à des amis.
Pour lui, la conception qu'il avait de l'écriture, il insiste beaucoup sur le terme de contact, de toucher. Il veut toucher les gens. D'ailleurs, on a beaucoup caractérisé sa littérature comme ça, comme d'une littérature d'interpellation. Il s'adresse à son lecteur. Et donc, cette circulation des manuscrits, c'est une façon de toucher. Il les donne physiquement de main à main. La façon dont il s'adresse aux personnes à qui il donne les manuscrits et d'attendre aussi un retour et l'attention qu'il avait aussi au retour qu'on pouvait lui donner. Cette question de la vie des manuscrits, je trouve que c'est central pour comprendre la façon dont il voyait sa création littéraire, qui est d'abord une écriture avec. Et en ce sens, c'est un écrivain très éthique, c'est-à-dire il écrit pour l'humanité, c'est un grand mot, mais derrière l'humanité, il veut parler du lien social. Et il met dans l'humanité aussi le monde végétal de la grande forêt équatoriale. Et là, on retrouve l'écologiste d'une certaine façon. Le monde animal, il veut faire société. Et faire société avec les gens, c'est être en contact avec eux.
Xavier Garnier, merci.
Merci beaucoup à vous.
Le professeur de littérature française et francophone, Xavier Garnier, l'invité ce matin de Laurent Corot. Et puis comme tous les samedis désormais, on termine cette demi-heure ensemble en parlant de médias français avec Amaury de Rochegonde. Et on parle ce matin, Amaury, de prise de position qui ne passe plus pour les collectifs de journalistes en France à propos de Gaza.
Oui, cette fois, les sociétés de journalistes et les syndicats du groupe RMC-BFM ont réagi publiquement. Ils ont réclamé jeudi le retrait de leurs antennes de la chroniqueuse Barbara Lefebvre en raison de ses déclarations haineuses, je cite, sur Gaza. Cette enseignante et essayiste qui intervient sur RMC n'est pas une inconnue de la rédaction. En avril 2024, elle avait déjà déclaré sur l'antenne que les gens du voyage n'avaient pas les codes de la civilisation et qu'il fallait les renvoyer, je cite, au pays des gens du voyage, ce qui avait valu une mise en garde de l'ARCOM. Cette fois, c'est un ensemble de propos qui est en cause, d'abord sur i24 News en février, où elle a estimé qu'il fallait vider la bande de Gaza et que les civils de Gaza sont autant responsables que les membres du Hamas et du djihad islamique, et que cela devra être payé au prix fort. Une sorte d'incitation au nettoyage ethnique qui avait entraîné sa convocation par la direction de RMC. La chroniqueuse avait été suspendue une quinzaine de jours, et voilà que le 20 mai, elle s'est vantée d'avoir assisté à un concert du chanteur israélien Eyal Golan qui appelle à effacer Gaza. Pour la société des journalistes de RMC, on ne peut plus parler de dérapage malencontreux, mais bien d'apologie de crimes de guerre.
Et Barbara Lefebvre a aussi participé à la fin du mois de mai à un gala de soutien à l'armée israélienne.
Oui, dans ce gala organisé par le publicitaire Franck Tapiro, elle a animé un jeu concours où il s'agissait de deviner la proportion de Gazaouis tués par rapport à la population. Elle n'était d'ailleurs pas la seule à participer à ce gala puisque Laurence Ferrari de CNews et Europe 1 en était l'invité d'honneur et on pouvait y retrouver aussi Franz-Olivier Gisbert du Point ou encore Gilles William Goldnadel. Cet avocat et chroniqueur de CNews n'a pas caché le fond de sa pensée quand il a dit qu'entre un État juif occidental blanc et des terroristes basanés, il n'y avait pas photo.
Et ces déclarations sont, selon vous, Amaury, le fait de chroniqueurs ou d'éditorialistes?
Effectivement, on entend très souvent sur les chaînes d'infos privées des commentateurs qui ne sont que très rarement tournés vers la défense des Palestiniens. La flottille d'aide humanitaire avec Rima Hassan et Greta Thunberg a ainsi été suivie, mais aussitôt discréditée par Caroline Fourest sur LCI. Mais en même temps, les reporters de terrain, les spécialistes de l'international, mesurent bien l'ampleur des crimes commis par Israël, y compris contre les journalistes, pour les empêcher de témoigner.
Merci à Maury de Rochegonde et à la semaine prochaine, à samedi prochain pour une nouvelle chronique des médias. Merci aussi à Pauline Berthélémy qui était à la réalisation de cette édition d'Afrique Matin, Vincent Dublange à la rédaction en chef. Restez avec nous sur RFI dans 30 secondes, le journal. Passez une excellente journée à l'écoute de la Radio Mondiale.
L'information continue sur la chaîne WhatsApp de RFI.
Chaque jour, vous pouvez retrouver directement sur votre téléphone les principaux titres de l'actualité internationale et les analyses de RFI, ainsi qu'une sélection de nos émissions. Pour nous suivre, c'est simple. Allez sur l'onglet « Actu » de votre application, abonnez-vous à notre chaîne et rejoignez la communauté WhatsApp de RFI.
RFI sur WhatsApp. L'actualité autrement, l'information quand vous voulez.